franceinter.fr.
Salut les amis de la Cosmopolitaine, une émission en partenariat avec le mensuel Transfuge, le mensuel dont Oriane Joncourt viendra tout à l'heure nous vanter les qualités évidentes. Cette émission Cosmopolitaine est chroniquée par Marie-Madeleine Rigopoulos et Laurent Bourdon, réalisée par Michel Soulier, préparée par Leïla Kouroussé-Licois et musiquée par Jean-Baptiste Audibert.
Cosmopolite. Cosmopolitaine.
Je m'appelle Francis Ford Coppola.
Amy Almeida.
Valérie de Grumagne.
Marc Belloc.
Cathy Rosenthal.
Dario Patrick Chamoiseau.
Laurent Pamon.
Chirine d'Aibes.
Je suis l'invité de Cosmopolitaine.
Paula Jacques.
Je suis Paul Constant et je suis l'invité de Cosmopolitaine.
Je le dis et je le redis. Paul Constant est membre de l'Académie Goncourt, mais également, ce n'est pas antinomique, l'une des plus imaginatives et flamboyantes romancières contemporaines. Avec son dernier roman, Des chauves-souris, des singes et des hommes, elle nous ramène une fois encore en Afrique noire, la terre de son enfance, terre enchantée et douloureuse, avec son père, médecin militaire dans la brousse. Son dernier roman s'ouvre sur Olympe, une fillette mal aimée, qui recueille un bébé chauve-souris, augure de malheur, selon les garçons du village. Eux peuvent se targuer d'un bel exploit. Ils ont trouvé au bord de la rivière Ebola, celle dont les eaux pétillent délicieusement comme du coca, un trésor. Ils ont trouvé le cadavre d'un grand singe au poil argenté où, comme chez le cochon, rien ne se perd et tout est bon. La fourrure servira de parure au colporteur, judicieusement nommé Docteur Désir, tandis que la viande de l'animal fournira un mémorable festin à tous les villageois. À partir de l'épidémie qui va ravager toute l'Afrique de l'Ouest, Paul Constant nous livre un conte réaliste où se mêlent magnifiquement l'humour noir, la compassion, la poésie et l'intense plaisir de lecture. Des chauves-souris, des singes et des hommes vient de paraître chez Gallimard et Paul Constant nous en parle dans la seconde partie de cette Cosmopolitaine. Tout de suite, des images et des hommes avec un très beau livre consacré au cinéma égyptien. Ceux qui font les films, bien sûr, mais aussi ceux qui les regardent. C'est grâce à vous, bonjour Marie-Claude Bénard.
Bonjour.
Que nous allons donc nous plonger dans cette époque bénie du cinéma égyptien. Entre 30 et 1940, votre livre s'intitule « La sortie au cinéma, palace et ciné-jardin d'Égypte » et il est paru aux éditions Parenthèses. Marie-Claude Bernard, c'est un livre très original dans la mesure où vous mêlez donc aux témoignages des grands cinéastes de l'époque les souvenirs émus, nostalgiques, voire désespérément amers des spectateurs. Et vous avez dans ce livre rencontré tous les grands cinéastes encore vivants, puisque vous avez mené ces entretiens en 1980. Vous êtes...
90. J'ai commencé, 90. Oui, c'est ça, dans les années 90.
D'accord. Et vous êtes professeur de philosophie et de cinéma audiovisuel. Qu'est-ce que c'est que cette passion pour le cinéma égyptien, qui n'est plus, je signale?
Oui, eh bien, cette passion, ça tient à ce que, en cas pour des raisons familiales, entre 86 et 90, j'ai vécu en Égypte, j'étais en disponibilité, donc je n'enseignais plus. Et une fois sur place, j'ai été fascinée par la ville d'abord, le Caire, et par les cinémas dans la ville, qui étaient des magnifiques, comme des paquebots, enfin, qui étaient...
Bah,
enfin,
c'était presque absolument... tous dans les beaux quartiers, l'équivalent du Rex,
c'est
sur
ça,
les
voilà,
grands
boulevards. C'est ça, hein, voilà. Et ça servait de monument au sens de point de repère. On disait au taxi, oui, je descends devant le Rivoli, ou je descends,
voilà,
ou bien j'habite dans la rue du Miami. Enfin, voilà, c'était vraiment des termes, enfin, des signes urbains tout à fait manifestes.
Et est-ce que l'idée, donc, d'interroger tous ces cinéastes, est-ce que c'était facile d'entrer en contact avec eux?
Oui, c'était facile parce que d'abord j'ai eu la complicité de Menhail Batraoui, qui était à l'époque journaliste au journal El Ahram et spécialisée dans le théâtre, donc elle connaissait très très bien tout ce milieu. Deuxièmement, c'était les gens étaient là. J'ai profité de l'accueil égyptien, oui. De la générosité. C'est-à-dire, certes, j'étais introduite, mais il n'y avait pas de problème. Tout le monde était extrêmement coopératif, gentil, aimable, oui. L'un renvoyant à un autre.
Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, Marie-Claude Bénard, c'est que certains entretiens avec les plus vieux cinéastes sont conduits en français, et puis signe des temps. Le français a disparu en
c'est
même
ça,
temps
voilà.
Que la société cosmopolite et les nouveaux cinéastes s'exprimaient en arabe. Laurent Bourdon, alors moi j'ai pris un plaisir intense à ce livre, évidemment, puisque c'est toute ma jeunesse. Moi aussi j'ai des histoires sur les cinémas égyptiens. Mais vous, critique de cinéma.
Je ne peux pas en dire autant, évidemment. Mais tout de même, c'est avec délice que je me suis plongé, chère Marie-Claude Bénard, dans votre livre, véritable déclaration d'amour au cinéma en général, finalement. J'avoue avoir eu tout de même un petit peu peur en découvrant que vous étiez prof de philo et de cinéma audiovisuel, chercheuse au très glamour centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale, annexe du riant CNRS. Mais une fois l'objet...
Vous avez craint une prise de tête.
Oh là là, terrible.
Et la vôtre
terrible,
est grosse.
Énorme, c'est pour ça, il y a de la place. Mais j'ai vraiment eu très peur. Mais une fois l'objet en main, j'ai failli défaillir de plaisir, littéralement happé que je fus par le délectable et enivrant parfum émanant de chaque page, que dis-je, de chaque ligne de cette invitation à retrouver des bonheurs enfuis. Ce livre, chers auditeurs, se compose en effet de nombreux entretiens menés par Marie-Claude Bénard, partie à la pêche aux souvenirs, que ce soit des célébrités comme Omar Sharif ou Youssef Chahine, ou bien des inconnus ayant pour seul titre de gloire d'avoir vu des films au Caire ou à Alexandrie, au temps où le cinéma était encore synonyme de communion et la salle de cinéma de splendide cathédrale. C'est Youssef Chahine qui vous dit « La salle de cinéma, le métro, au Caire, était tellement belle qu'elle en était effrayante. » Ne sont pas toutes effrayantes. Le nombre de vos nombreuses sont vos interlocuteurs qui sont pris d'une nostalgie communicative et qui évoquent la fontaine lumineuse du cinéma radio qui changeait de couleur au rythme de la musique, l'orgue du Rivoli, une salle que son propriétaire prenait soin de parfumer, les vendeurs de simites et ces petits gâteaux ronds parsemés de graines de sésame qui, dans la salle, pendant la projection, poursuivaient leur petit commerce, le plafond du Royal qui s'ouvrait pendant la séance pour rafraîchir les spectateurs, les...
Il y avait un oiseau.
Les oiseaux
entraient parfois sur l'écran.
Ça a été confirmé.
S'ils ne faisaient qu'entrer, ça allait.
C'était le plein air.
Et puis aussi les bien nommés Fémina et Pigalle, salle spécialisée dans le cinéma français. Les musiques de l'entracte, alors du Rinaketti au St. James, du Tino Rossi au Rex et de l'orgue, de Dando Dandolo au Rivoli. Et puis, bien sûr, beaucoup aiment à revenir sur leurs premiers émois. Huguette, kérote d'origine libanaise, se souvient que, comme dans tous les pays du monde, finalement, lorsqu'un garçon voulait sortir avec une fille, il l'invitait au cinéma. Elle ajoute, au cinéma Odéon de 10h à 13h, la dernière rangée des fauteuils du balcon était réputée. Un autre témoin de l'époque se souvient d'une séance passée, la main posée sur le morceau de dentelle dépassant de la jupe de sa voisine, une charmante petite Française, qui délicatement posa sa main sur la sienne. À vrai dire, il ne se souvient plus très bien du film qu'il était allé voir. Laurence Darabi lui-même, enfin je veux dire Omar Sharif en personne, se souvient, on allait au cinéma parce que c'était là qu'on pouvait voir les jeunes filles et les approcher. Eu égard à la météorologie locale, beaucoup de ces cinémas sont des cinémas de plein air, bordés de jardins somptueux, avec rien moins que la Voie lactée en guise de plafond, et dans lesquels le son était bien meilleur qu'ailleurs, se souvient Youssef Chahine. Parfois, ajoute-t-il, certaines nuits d'été étaient magiques. Et puis, chacun se souvient des films vus dans ces salles, des films arabes, français, italiens, américains aussi bien sûr, et toujours en version originale. Les gens n'auraient pas supporté de voir un cow-boy parler arabe, explique Laurence Darabi. Alors, beaucoup se souviennent des sous-titres d'avant l'invention des sous-titres. On devrait appeler ça des bords-titres, puisque de chaque côté de l'écran, sur deux rouleaux semblables aux tables de la loi judaïque, précise l'un de vos interlocuteurs, apparaissaient les dialogues français et arabes d'un côté, anglais de l'autre. Alors, j'ai toujours pas très bien compris comment ça fonctionnait, mais ça fonctionnait. Mille autres souvenirs nostalgiques émaillent ce trésor de 222 pages, également illustré de documents d'époque, affiches, magazines, programmes et photos de ces salles de cinéma où l'écran est définitivement cet espace non clos qu'évoque Éric Rohmer en exergue de ce livre. Un livre modeste et formidable à la fois, un livre de compagnie, de très bonne compagnie.
Merci, merci Laurent Bourdon. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, ce qui est très important, Marie-Claude Bénard, c'est que le Caire, le cinéma égyptien, c'est la Mecque de tout le cinéma arabe. C'est là que l'on fait des films avant tous les autres pays du Maghreb, et c'est là que viennent tous les talents des pays arabes. C'est-à-dire que c'est un cinéma extrêmement cosmopolite. Et puis, votre livre, au fond, nous raconte l'histoire de l'Égypte.
C'est
d'une certaine manière, hein, puisque ça commence dans les années 30, donc c'est les années du colonialisme. L'Égypte est occupée par les Anglais. Il y a une société étrangère très, très riche, très à l'aise. Et ça se répartit finalement par caste sociale. C'est-à-dire que les cinémas décrits par Laurent, ça c'est dans les beaux quartiers. Ce sont des salles somptueuses. Les gens se tiennent bien. On ne jette pas de trucs dans l'allée. On n'insulte pas le méchant quand il va essayer de violer la jeune fille, etc. Bon, on reste sur son quant à soi. Tandis que dans les cinémas en plein air, ce que j'ai eu la chance de fréquenter avec ma bonne, le Babelouk par exemple, eh bien c'était trois films. Il y avait deux films américains, un film arabe. Les gens arrivaient vers 6h du soir avec toute la marmaille et des provisions jusqu'à minuit, quoi. Et alors on s'installait, on papotait, les enfants couraient dans les allées. Et lorsque le film commençait, alors là c'était extraordinaire parce que le public participait également à l'action du film. Alors moi j'aimais tellement aller au cinéma, vous savez, c'était... Oh, je peux pas vous raconter, avec mes cousines, on faisait les 100 coups, on avait séduit un... Enfin, on était petites, mais on avait réussi à séduire un projectionniste qui nous faisait entrer gratuitement aux radios. Bref, c'était la chose importante dans l'existence, c'était aller au cinéma. Est-ce que cette démarcation maintenant qui existait à l'époque entre les pauvres et les riches est abolie en Égypte ?
Non, elle n'est pas du tout abolie. Sinon que, enfin, non seulement elle n'est pas abolie, mais elle s'est peut-être plutôt même écartée. C'est-à-dire qu'il y a des cinémas, les cinémas du centre ont perdu leur prestance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bonne société ne va pas au cinéma. Les cinémas fréquentables par la bonne société sont à l'extérieur, dans des malls, des centres commerciaux. Et là, il y a tout le confort, mais ça, ils n'ont plus pignon sur rue, ils ne sont plus directement sur le trottoir, c'est-à-dire qu'ils sont un peu soustraits à la ville, en quelque sorte.
Et de même, toutes ces belles salles sont délabrées, ont
et
disparu.
C'est ça, certaines ont disparu. Dans l'ensemble, les belles du centre-ville, elles n'ont pas disparu. Mais elles sont un peu délabrées, elles ont fait l'objet, dans les années 90, justement après cette étude, d'une réfection. Alors oui. Certaines, comme par exemple le cinéma Rivoli, qui faisait 2500 places...
2500 places.
Oui, c'était énorme. Alors celui-là,
qui était souvent complet, précise un de vos interlocuteurs.
Oui, c'est ça. Et que, paraît-il, ça rentrait, ça sortait sans mettre un seul papier à terre. Enfin, c'était absolument parfait. Bon, celui-là, il a été divisé en trois.
Oui, c'est
ça. Un peu d'ailleurs comme
le Rex.
Mondialement, c'est comme ça aussi.
Il y a aussi toutes ces belles salles qui ont brûlé pendant l'incendie du Caire en 1952.
Oui, mais ceux-là, elles ont été rénovées. Oui, le métro, pas oui.
Voilà, donc, il y a aussi une césure à partir de l'incendie du Caire, de l'installation de Nasser au pouvoir, c'est que ce cinéma tous les réalisateurs vous disent qu'au fond, le film arabe était copié sur la comédie américaine. Il y avait ou alors de grands mélodrames adaptés d'Alexandre Dumas, etc. La Dame aux Camélias, bon. Mais par ailleurs, la plupart des cinéastes vous disent que c'était pas des très bons films, mais que c'était quand même une espèce de patrimoine arabe très très important. Et puis, ça bascule, l'incendie du Caire, tous ces films où on voit des filles merveilleuses boire, fumer des cigarettes, se balader en bikini, et puis nouer des intrigues amoureuses avec des milliardaires en général. Bon, eh bien, ils vont tomber sous le coup de la censure, et ils vont devenir d'abord beaucoup plus corrects politiquement, ennuyeux. Et il me semble que ils ont, pendant un certain temps, perdu le savoir-faire du cinéma égyptien.
Oui, c'est ce que les réalisateurs disent, effectivement. Bon, moi, je peux pas juger parce que j'ai pas été tellement, enfin, encore que, j'ai connu, moi, ce qu'ils appelaient les nouveaux cinéastes, en quelque sorte, qui étaient dans les années 60, ils étaient jeunes en 70, et qui étaient les nouveaux réalismes. Bon. Mais c'était un cinéma pour les Égyptiens, c'est-à-dire que ça avait un certain intérêt. Mais à chaque fois que j'ai essayé d'en montrer à l'extérieur du Caire et en faire programmer à Paris, les gens disaient non, ça ira pas. Enfin, il y avait la nouvelle société. C'était aussi les nouveaux spectateurs. C'est-à-dire qu'il y avait une clientèle cosmopolite qui n'était plus, qui était perdue, partie, et par conséquent, ça avait changé.
Alors c'est une constante aussi, Marie-Claude Bénard. Les gens vous rencontrez parmi les plus jeunes, par exemple, comme comment il s'appelle
Vous avez par exemple Yousri Yousri Nasrallah.
Voilà, Yousri Nasrallah, ils vous
Ismail
expliquent,
Ismail,
qui vous disent qu'au fond, c'était des mauvais films. Mais ils ont l'air d'oublier qu'il y a quand même eu des grands réalisateurs. Par exemple, quelqu'un comme Salah Abou Seif.
Ah oui, mais Yousri ne dit pas que Salah Abou Seif est un mauvais réalisateur.
Mais enfin, c'est un petit peu comme la nouvelle vague vis-à-vis du Vivier.
Oui,
c'est le mépris.
Oui.
Mais Salah Abou Seif
est un excellent réalisateur.
Oui, c'est formidable. Ce que dit Youssef Chahine à propos de Duvivier. Il avait 30 fois un film de Duvivier, un film américain.
Mais justement, Salah Abou Seif, il va porter au cinéma les grands livres de Naguib Mahfouz.
Absolument.
Et qui sont des drames sociaux
où
les femmes ont des rôles très puissants. Mm-hmm. Justement, un des plus beaux films dont je me souviens de Salah Abou Seif, ça s'appelait
La Censure.
La Censure avec Tahaïa Karioka.
Oui, oui.
الامتحان يوم السبت وما ذكرتش حاجة ورحت عند جماعة أصحاب أذاكر عندهم
وبعدين
ولا حاجة
هتذاكر فين الليلة دي
عندهم طبعا
حلاوتك
يا سلام
Tahaïa Karioka dans ce film qui danse et qui est d'une beauté extraordinaire est une très mauvaise femme hein, qui séduit les jeunes gens et qui se moque des vieux qui l'entretiennent. C'est vraiment une peste, un monstre et c'est la femme fatale toute puissante hein, telle qu'on n'oserait plus la représenter aujourd'hui dans le cinéma égyptien parce qu'elle n'existe plus pour la bonne raison et Salah Abou Seif a aussi tourné des mélodrames magnifiques basés sur des faits divers comme Raya Iskine à l'histoire de ces deux femmes
qui dépouillent, assassinées,
leur procès et tous ces films-là partent directement au public, n'est-ce pas ?
Ah, tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a cette veine-là, et puis il y a aussi la veine, des cinémas un petit peu antérieurs et encore, la veine comédie musicale. Alors, même si c'était copié sur les films américains, l'important pour les Égyptiens, c'était les voix égyptiennes. C'est-à-dire, les chanteurs et chanteuses égyptiennes étaient adulés, et les spectateurs allaient une fois, deux fois, trois fois, parce qu'ils n'avaient pas l'équipement sonore pour les... Donc, ils allaient deux fois, trois fois voir le même film pour réécouter Abdelhalim Hafez par exemple et
Leïla Mourad qui a été découverte Marie-Claude Bénard par un précurseur du cinéma égyptien et de la société cosmopolite. Une figure qui ne pourrait plus exister aujourd'hui, c'est le fameux Togo Mizrahi, qui est un juif d'origine italienne et qui va le premier tourner toutes sortes de films, des films musicaux, La fille dans le désert, Le cœur brisé, et qui va révéler cette immense chanteuse et actrice, Leïla Mourad. Alors, Togo Mizrahi, c'est une figure qui ne pourrait plus exister parce qu'aussi, au début de sa carrière, il va créer un personnage qui s'appelle Shalom, qui est juif, et qui est très prisé par la population égyptienne. Et dans certains de ses films, il montre les trois confessions, la juive, la musulmane et la copte, qui cohabitent harmonieusement ensemble.
Qui est révolu.
Voilà. Et lui, il va avoir un sort absolument tragique. On va lui, à la Révolution, on va lui piquer tous ses films.
Comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire
Et il ne tournera plus jamais. Est-ce que Togo Mizrahi figure encore dans le patrimoine, les annales du cinéma égyptien ?
Oh oui. Ces films ne sont plus. Enfin, ce sont des films anciens qui sont plus du tout programmés. Mais ça fait partie de la cinémathèque. Ça fait partie de, en particulier d'Alexandrie, parce qu'il y a aussi cette différence entre le Caire et Alexandrie. Et Togo Mizrahi était alexandrin.
Mais après, il s'est installé au Caire.
Mais oui. Mais mettons qu'il est quand même il est du patrimoine, si l'on peut dire.
Alors c'est très amusant de lire sa vie parce que les débuts du cinéma sont complètement artisanaux. En fait, il tourne dans sa villa d'Alexandrie.
Tout à fait. Oui.
La maman, le papa, les bonnes, les domestiques, tout le monde tourne dans le film.
Oui, c'est son frère qui m'avait raconté ça.
Que vous avez rencontré.
C'est ça, voilà, oui.
Laurent ?
Oui, enfin, une autre question, mais on continue à parler du bouquin et au détour et de ce que vous... Et avec ce que disait tout à l'heure Paula, de ses souvenirs de petite fille dans les cinémas du Caire, il y a un de vos interlocuteurs qui vous dit à un moment que son public, maintenant le public est devenu de plus en plus masculin, comme la ville. Ça dit quelque chose de l'évolution.
Ah, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est
c'est-à-dire que maintenant...
Barakat, c'est... Ah, oui, ça, la clientèle a changé, et dans la mesure où la clientèle a changé d'abord, elle est devenue plus masculine et aussi plus jeune. Et ce ce sont, et c'est une jeunesse pas très éduquée et à qui et pour laquelle on fait, enfin un public pour lequel on fait des films qui sont, enfin, qu'il est censé aimer. Donc on vise, c'est pour ça qu'il y a une qualité, mais une qualité qui a beaucoup baissé parce que ça visait un certain public.
Est-ce que c'est pas une évolution un petit peu internationale aussi, et aujourd'hui aussi nos cinémas qui sont dans des centres commerciaux et
au ça suit un cours un peu mondial du cinéma.
Il y a toute une part dans votre livre, Marie-Claude Bénard, faite aux affiches de cinéma égyptien, qui moi sont absolument formidables. En réalisateur, les réalisateurs les trouvent très laides.
Mais il paraît que les dessinateurs sont très connus, mais
moi,
que même
je
en
les
France.
Tellement imagés, marrantes.
Je ne suis pas très experte sur la question, mais l'ami qui a fait la préface, là, Jean-Charles De Poule, disait qu'effectivement, et en particulier aux Beaux-Arts, les Égyptiens étaient renommés pour leur qualité, le rendu
pictural. Et c'était des affiches faites à la main.
Et
alors, en ce qui concerne donc l'évolution de ce cinéma, après vont arriver des gens comme Youssef Chahine. Ça, c'est quoi? C'est 55, 56
Oui, même les premiers de Youssef Chahine. Oui, c'est ça, c'est les années 50, Youssef Chahine.
Ciel d'enfer,
oui,
c'est son premier film, voilà, doit être en 55.
Je suis pas très bonne sur les dates, il faudrait que je retrouve. Parce que, alors, le livre donne la liste des films cités. Oui, alors je voulais aussi insister là-dessus, c'est-à-dire que j'ai choisi de lister les films qui ont été cités. Alors peut-être, c'est-à-dire dont les interlocuteurs se sont souvenus. Bon, en gardant, tant pis, il y en a peut-être d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on a gardé les meilleurs, ça veut dire simplement que c'est ceux-là qui ont émergé et qui sont remontés à la mémoire. Et, parce que c'est quand même aussi un livre de mémoire de spectateur. Oui. Et je voulais insister sur ce par caractère-là subjectif.
Et même un petit peu plus que ça, puisqu'il y a une phrase... Et vraiment, je continue d'y réfléchir. Je pense que les mois qui vont venir, je vais continuer à penser à ce qu'a dit un de vos interlocuteurs. Si le cinéma n'avait pas commencé par être muet, le cinéma égyptien n'aurait pas, et je pense que le cinéma mondial n'aurait pas eu cette force et cette ce côté grand, enfin voilà, qui plaît, voilà,
grand public.
Grand public, voilà.
C'est ça. Oui, oui, oui.
Ce début du cinéma muet obligé, voilà. Oui. Ah, ça, c'est formidable comme réflexion, je trouve.
Il y a l'importance des chansons, mais aussi l'importance des vedettes que le cinéma égyptien va révéler, notamment Youssef Chahine avec Omar Sharif et Fatin Hama. C'est un couple légendaire dans ces films, et c'est un couple qui va se marier, effectivement. Ensuite, Omar Sharif va faire une grande carrière hollywoodienne. Et il me semble, mais je me trompe peut-être, que Fatin Hamama a tourné un peu bigote et qu'elle aurait pris le voile comme nombreuses.
Non, c'est pas elle. C'en est d'autres. Oui, non, c'est pas elle. Bah, je saurais plus vous dire, mais c'est pas elle.
Ah, bah alors,
c'est
pas elle. Non,
comme Laura Antonelli aussi. Il y en a d'autres.
Non, c'est pas elle. Non, mais Fatin Hamama a une carrière extraordinaire parce qu'elle a commencé très enfant et elle a fini, elle a joué des rôles d'enfant et après quoi, elle a joué des rôles de grand-mère. Enfin, vraiment, quand elle est revenue après Nasser, parce qu'elle avait été un peu, quand elle est revenue en 67,
Ne cherchez pas.
Bon. quand elle est revenue au Caire avec pour un film de Henri Barakat, avec lequel elle a énormément tourné, je sais plus ce que je voulais dire. Elle est revenue au Caire et oui, elle a joué avec un réalisateur, Henri Bichara, un rôle de grand-mère.
D'accord.
Et c'était même un exploit. C'était considéré comme un exploit parce que c'était dans un quartier populaire. Elle jouait un rôle de dame populaire et ils ont tourné en extérieur réel. Alors il y avait monté tout un système pour cacher, parce que Fatin Hamama était connue d'absolument tout le monde et elle aurait fait des émeutes. Enfin, tout le monde se serait précipité.
Alors, Omar Sharif, entre autres, dans ses mémoires, il parle de cette époque comme étant merveilleuse, n'empêche qu'il va s'expatrier. Et il insiste beaucoup sur le fait qu'il a beaucoup plus de liberté à l'étranger, parce qu'en Égypte, à partir des années nasserines, il y a la censure. Et on va voir, effectivement... les premiers films de Youssef Chahine, il va d'abord faire la veine sociale, la terre, rendre la terre aux paysans, etc. Et tout d'un coup, il y a l'arrivée de la censure, le fait que les mœurs sont absolument réfrénées au cinéma, plus de baisers, etc. Et l'époque, effectivement, où les cinéastes vont s'insurger contre le pouvoir. Et cette même Tahaya Carioca, qui joue une belle salope, quand il faut dire le terme, dans la censure, et bien là, dans le film de Youssef Chahine, elle interprète son propre rôle en grève contre les autorités et la censure du cinéma. On peut dire qu'il y a une sorte de chute très très dure dans le monde du cinéma égyptien. À la fois des libertés, peut-être aussi du talent, non ?
Oui. On ne peut pas ne pas. Ça, c'est sûr que c'est pas... Mais la clientèle, les usages, il y a eu des usages, il y a eu un amour du cinéma, du temps de la sortie au cinéma, Ça, c'était la voie royale, enfin, c'était la grande avenue du cinéma. Et de nos jours, on ne sort plus pour aller au cinéma. Donc, du coup, il est inéluctable que les films eux-mêmes soient. Enfin, qu'il n'y ait plus beaucoup. Enfin, qu'il n'y ait pas la même qualité des films. Ni la même quantité, ni la même qualité.
Marie-Claude Bénard, je voudrais terminer par un hommage à celui que j'aime entre tous, Youssef Chahine, et que j'ai eu la chance de rencontrer un petit peu avant qu'il ne disparaisse. C'était en 99, et là, il se lamente, sans se lamenter, sur l'état de son métier.
Si je suis porteur de quelque chose, ou bien on le veut, ou bien on ne le veut pas. Comme diraient les producteurs, j'ai l'air d'avoir un public. Et c'est le public qui me protège. Pour avoir le public, il faut avoir une certaine transparence, une certaine honnêteté qui va vers l'autre. Ça se voit, ça se sent. Et surtout, sur un nombre d'années presque incalculable, j'ai dépassé le demi-siècle dans le cinéma.
Oui, mais tu es une espèce de phénomène quand même dans ton pays, parce que...
Attention, phénomène chez moi, Alexandrie, ça veut
oui, parce que
ça veut dire un drôle d'animal. Bon, okay.
C'est qu'on t'admire pour le prestige international que tu as. On t'aime parce que tu as un esprit farceur, amusant, que tu bouges tel temps. Et en même temps, on te redoute parce que tu es un empêcheur de prier en rond.
Maintenant, l'essentiel, c'est que le dernier mot que tu as employé, si c'est l'autre côté qui redoute, peut-être que c'est très très bien. Il ne sait pas quoi faire de moi, il ne sait pas quoi faire sans moi. Me faire du mal à un point qui irait un peu trop loin, et eux aussi redoutent d'avoir une réaction... peut-être un peu difficile, qui viendrait de loin. Je ne suis plus seul, tu vois. Et quand je te dis mon public, ce n'est pas simplement dans tous les pays arabes. Et grâce à Dieu, c'est merveilleux, j'en ai beaucoup. Et puis, il y a l'Europe. Moi, quand on me disait que tu es international, il parlait probablement des films ou bien des pays anglo-saxons. Mais s'ils ne me veulent pas, je me pose qu'on en 2000, parce qu'en Indonésie, on projette mes films, en Russie maintenant... Tous les pays musulmans, ils sont nombreux, les musulmans. C'est ces gens-là qui me protègent.
Oui. Mais Youssef Chahine, est-ce que tu arrives facilement à faire tes films en Égypte? Je ne parle pas de l'argent, mais je parle par exemple...
Non, pourquoi tu ne parles pas de l'argent?
Alors, parlons d'argent.
C'est difficile, c'est toujours très emmerdant de trouver les subventions nécessaires, sans qu'il y ait des chouroutes, comme on dit, des conditions. Avec moi, il n'y a pas de préconditions. Ou tu me veux ou tu ne me veux pas.
Talentueux et sympathique, comme tous les Égyptiens. Merci beaucoup Marie-Claude Bénard pour ce très beau livre, interview, images, affiches, le cinéma d'Égypte 1930-1980. Ça s'appelle La sortie au cinéma et c'est paru aux éditions Parenthèse. Merci Laurent Bourdon de votre enthousiasme.
Ah, je vous remercie.
Sat in a violent room with some people I saw through. Gathered round the television's fire, watching for the people I admired. Outside my words were frozen in my mouth. I couldn't get them out. When I see my women die, how will I know? How will I walk slow? How will I know? How will I walk slow? It's a strange ball that we watch for. Every now and then, every now and then, they must have heard my scream. Every now and then, there's a glare from the sun and it's heaven. When I see my willing heart, how will I know? How will I walk slow?
Bonjour Paul Constant, je voudrais d'abord vous dire à quel point j'ai été émue et éblouie et affligée aussi par votre dernier roman, le 11e je crois, des chauves-souris, des singes et des hommes qui vient de paraître chez Gallimard. Paul Constant, vous êtes une grande écrivaine française, vous avez été couronnée d'un tas de prix, dont le prix Goncourt, et dans ce livre, Paul, on retrouve à la fois l'univers que vous avez su imposer, avec quelque chose qui doit venir de loin, de votre enfance africaine.
Alors, c'est un livre qui prend ou mélange ou accueille plusieurs sources ou plusieurs affluents de mon imaginaire, celui de l'enfance, l'enfance pas n'importe où, l'enfance en pleine brousse, dans des pays sans nom, puisque ce sont des pays qui sont définis par la végétation, la forêt, la brousse, la rivière, et on se moque de savoir si on se trouve au Ghana, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et puis l'autre affluent, c'est la médecine. J'ai vécu toute ma vie avec mon père qui était médecin, mon mari qui est médecin, tous deux spécialistes de médecine tropicale. Donc la médecine, je la connais et du lieu et des discours et de ce que disaient les médecins à la fois dans l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Et puis dans ce livre, il y a eu encore une source d'inspiration, c'est l'actualité qui est venue. L'actualité nous a montré à la télévision pendant un an et demi, les ravages d'une terrible épidémie. Cette épidémie avait pour nom Ebola. Et donc, je pense que des fondements africains, des fondements médicaux et de ce qu'apportait l'actualité, j'ai tissé une histoire. Et forcément, cette histoire n'est pas un documentaire, parce que la télévision le fait tellement mieux que n'importe quel écrivain. J'ai tissé une histoire qui n'est pas autobiographique, parce que si j'écris des romans, c'est pour m'éloigner de moi et pas pour revenir en moi.
Vous dites que une histoire qui n'est pas proche de vous, et pourtant dans ce livre-ci, comme dans les autres, on retrouve deux constantes, oui. C'est-à-dire la splendeur de la nature sauvage et ses dangers. C'est ce que vous éprouviez, petite fille. Vous aviez peur de vous aventurer loin de la maison de votre père ou de votre mère.
Je ne sais pas si c'est lié à un paysage africain, cette peur. De toute façon, c'est une peur que j'ai pour tout. C'est une façon d'être dans la vie, de désirer entrer dans un paysage, de ne pas le connaître et d'en avoir peur. Mais c'est le paysage des contes de fées. C'est-à-dire que c'est un paysage qui est très attractif, mais c'est un paysage qui va envoûter, qui va prendre et puis qui est peuplé de dangers multiples.
Bonjour ma chère Marie-Madeleine Rigopoulos.
Bonjour Paula.
Je crois qu'elle vous a un peu facilité les choses, là, Paul Constant, en expliquant qu'effectivement, elle a réussi quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire, d'après des faits réalistes et très, très prosaïques et douloureux, réussir à écrire un conte cruel.
Les mythes, les légendes et les tragédies ne sont pas des jeux de l'esprit, ce ne sont pas la fantaisie d'un poète aveugle ou d'un troubadour mélancolique, elles sont la voix du monde. De tout temps, nous inventons des histoires, nous chantons des poèmes, nous déclamons sur scène ou murmurons au coin du feu, car le seul moyen de rendre le réel supportable est de le raconter. Ainsi préférons-nous franchir l'Achéron plutôt que les portes du cimetière, nous choisissons la malédiction plutôt que la maladie, les anges et les démons plutôt que les humains. Qu'importe, me direz-vous, la mort n'a qu'un seul visage. Faux, vous répondrai-je, la mort a autant de visages qu'il existe de poètes. Paul Constant dit l'indicible, car c'est dans le territoire de l'indicible que se cache la vérité, et fait d'une épidémie d'Ebola au Congo une fable aux accents de tragédie antique. Olympe, petite dernière, quantité négligeable d'une famille de garçons, grandit dans ce village d'Afrique au bord du fleuve Ebola où les mères qui enfantent des mâles, hautaines et fières, méprisent la vie de leurs semblables. Rejetée de tous, porteuse du sceau de la malédiction qui voudrait que sa seule présence condamne son village à ne voir naître que des filles, Olympe, vêtue d'un pagne jaune et d'une ceinture de perles blanches, déniche une minuscule et adorable chauve-souris, bébé abandonné. L'enfant y voit un signe et les premiers élans de l'amour et de la tendresse qu'elle n'a jamais connus. Fière de son trophée, elle l'emporte au village et l'exhibe joyeusement à l'indifférence générale. Indifférent, c'est pour cause. Les garçons partis en forêt que l'on avait cru perdus rentrent d'une première chasse, semble-t-il, victorieuse. Un grand singe au dos argenté dont l'odeur de putréfaction, l'absence de blessure et la rigidité laissent pourtant aisément deviner que les enfants qui se voulaient grands chasseurs se sont contentés de collecter un cadavre. Cadavre que l'on s'apprête à transformer en festin pour tout le village. Olympe le sait. Elle le voit du haut de sa jeune innocence. Mais les mères sont trop promptes à s'enorgueillir de leur fils victorieux. La fable est trop douce, trop enivrante. La joie et la fierté est la première épidémie qui s'empare du village. La première, car la seconde, celle qui s'apprête à s'abattre sur tous, innocent comme coupable, n'est que néant. Quelque part, le long du fleuve, Agrippine vient d'arriver au dispensaire d'une congrégation de sœurs. Médecins sans frontières, d'un âge déjà avancé, Agrippine a effacé son passé pour mieux répondre à l'appel du présent tragique d'une humanité en détresse. Elle sera rattrapée par la vie, comprenant qu'on ne sauve pas le monde en se détachant de lui, et retrouvant, à travers la maladie et la menace de la mort, la réalité de ses propres aspirations. En une seule fable de 166 pages, Paul Constant raconte avec une malicieuse cruauté toute l'histoire de l'humanité et le prix de cet orgueil qui lui est propre.
Merci Marie-Madeleine Rigopoulos. Paul Constant, pourquoi avez-vous choisi comme héroïne principale et comme celle qui va propager la maladie une petite fille Olympe, une petite fille rejetée par sa famille? Pourquoi elle?
Alors, je trouve que on peut aller plus loin sous le regard d'un enfant. On peut dire beaucoup plus de choses parce que les choses ne sont pas encore nommées. Donc, on peut passer par une sorte de description ou une sorte de langage élémentaire qui couvre plus de choses et qui dit plus de choses. C'est ma façon d'entrer dans la sensualité, dans la sexualité, dans la peur, dans l'amour, que de passer par cet enfant intermédiaire.
Alors, vous avez parlé d'amour pour le Constant. Il se trouve que la petite Olympe, donc qui est rejetée par sa famille, va découvrir ce que c'est l'amour en recueillant cette chauve-souris. Mmh. Tout d'un coup, elle découvre ce que c'est que la beauté, le mystère et l'amour par cette bête qui va colporter la mort, en quelque sorte.
Alors, chez Olympe, qui représente aussi l'innocence, que le mal vienne de l'innocence, c'est quelque chose d'assez tragique. Montre aussi que tous nos gestes ne sont pas anodins, que le fait de s'asseoir dans l'herbe, d'avoir la main qui court et puis que cette main trouve cette bestiole, voilà, et puis le drame se met en marche. L'amour, oui, il lui vient par l'amour des bêtes. Mais je pense que il y a dans la vie, comme ça, très tôt, des sortes de coups de foudre qui font qu'on va toujours aimer de la même façon.
Oui, il y a une très belle phrase dans votre livre. Vous dites que elle apprend l'amour, elle devient la mère de cette chauve-souris, la mère qu'elle ne sera jamais, à cause, elle portera à son futur enfant le même amour qu'à la chauve-souris.
Oui, la chauve-souris. Ça va être le déclencheur. Je pense que c'est comme ça. La vie, on fait, il y a quelques gammes. Et c'est pour ça que l'enfance est à la fois un moment qu'on doit extrêmement protéger. Parce que c'est là que se font les gammes. Et la mère que ne sera pas Olympe se définit par rapport à ce qu'elle éprouve pour un animal assez banal quand même dans l'univers sauvage.
Enfin banal, on n'a pas tous eu tous les jours le moyen d'adopter un bébé chauve-souris quand même. Et non, alors il me semble qu'il y a quelque chose de paradoxal dans votre livre, Paul Constant. Pour vous, et je sais à quel point l'amour des animaux importe, ça représente l'innocence, la beauté, l'amour inconditionnel. Et voilà que le mal qui va frapper les hommes vient précisément des bêtes.
Oui.
Est-ce que c'est pas paradoxal ça?
On peut le voir comme ça. Effectivement, la chaîne de contamination, elle est la chauve-souris, les singes et les hommes. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les hommes sont responsables de l'émergence du virus qui va finalement contaminer les singes qui meurent en premier et puis rester à l'état endémique dans les chauves-souris qui vont à leur tour se mettre à contaminer. Pour moi, les animaux ne sont pas coupables dans cette histoire. Évidemment, derrière une terrible histoire de déforestation, et si la forêt primitive n'avait pas été changée en espèce de pilier d'EVA, rien ne serait arrivé. Enfin, en tout cas, c'est la théorie d'un des personnages qui est un chercheur, un normalien très brillant et qui met le doigt sur la plaie.
Paul Constant, dans Des chauves-souris, des singes et des hommes, à partir d'un fait d'actualité terrible, qui est finalement cette maladie, ce virus qui va se répandre sur la planète entière. Vous permettez tout.
C'est une construction de roman policier. Hein. Je fais comme Agatha Christie, mais une Agatha Christie qui serait assez brève, c'est-à-dire que je mets tout sous les yeux du lecteur. Et donc, avec une construction de roman policier, on introduit les pistes, les fausses pistes, mais en l'occurrence, tous ces personnages qui circulent le long de la rivière convergent vers la même fin et le même tragique. Personne ne va s'en sortir.
Et nous avons dans ce livre deux héroïnes, Olympe d'une part et d'autre part Agrippine, qui est cette sainte laïque, médecin sans frontières, et qui va, en fin de parcours, rencontrer aussi l'objet d'un grand amour possible qui est le petit cadavre d'Olympe. Agrippine est-elle aussi une femme qui n'aura pas de destin de femme ?
On peut penser que Olympe sera privée de ce destin et que Agrippine, au moment où elle découvre pourquoi elle est faite, pourquoi elle a couru dans le monde entier, elle découvre l'objet de son amour et elle se le voit enlevé. Et on peut se demander si la mort d'Agrippine, c'est une mort réelle, c'est-à-dire qu'elle aussi était contaminée par le virus. Et on peut se demander aussi, comme dans les contes, si elle ne meurt pas d'une maladie symbolique qui est la maladie qui touche les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
Il y a aussi des pages à la fois très drôles et très dures sur les pauvres religieuses aussi, quand on est au fin fond de la brousse avec trois fois rien pour soigner des maladies, de toute façon qu'elles ne pourront pas guérir. Est-ce qu'il y a chez vous quand même un peu d'ironie à l'égard des saints laïcs, des gens qui se dévouent
Mais c'est-à-dire que aussi bien la sainte laïque qu'est Agrippine, qui ne va finalement que dans ces pays-là que pour se sauver, pour trouver un sens à sa vie, les religieuses qui sont venues pour trouver aussi un sens à leur âme ou à leur croyance, tout ça sont des personnages qui sont tellement faibles devant ce qui est en train de se déclencher. Cette nature qui se met en colère, tous les rouages de l'épidémie qui commencent à avancer. Et alors à la fois, moi j'ai beaucoup d'empathie, de sympathie et j'ai beaucoup de pitié. Au fond, c'est comme quand vous regardez une mouche se noyer dans un aquarium. Je ne sais pas si c'est une belle image, mais on se dit tant d'efforts pour rien.
Il y a une chose qui m'étonne beaucoup, c'est que on a beaucoup parlé de votre livre, on a parlé de votre façon d'écrire, de votre univers, de votre plume acerbe et légère. Or, il me semble que pour moi, Paul Constant, vous avez vraiment écrit le livre de l'apocalypse de notre planète.
Brusquement, on est en train de se réveiller, on est en train de voir que ce que l'on avait fabriqué, sur quoi on comptait, est en train de disparaître. On est en train de voir ce qu'on a infligé aux animaux est tout simplement abominable et que nous n'allons plus régner, par exemple, sur les animaux et nous ne régnerons plus sur la nature et nous ne régnerons plus sur le climat. Et donc, nous sommes dans une situation d'immense fragilité. Et c'est ce que l'épidémie révèle, c'est lorsque nous sommes totalement nus et nous n'avons le choix que de nous battre de façon très gratuite, simplement avec nos forces humaines, si nous sommes humanistes. Et l'autre choix, c'est de croire désespérément en Dieu, si nous voulons donner du sens à notre vie.
Cosmopolitaine, Paula Jacques, sur France Inter.
Il bat frère ton corps. Ils avaient oublié le goût de la viande, et le grand ragoût noir, rance et puant, était succulent. Ils l'avaient entamé parcimonieusement, en mettant un peu de sauce sur la boule de manioc, puis ils avaient pris la viande à pleine main et poussaient le morceau dans la bouche jusque dans la gorge. La bassine, comme dans les contes, était inépuisable, et après la bassine, il y en avait une autre, et après l'autre, une autre, et ainsi de suite, sans aucune limite que celle de leur corps qui n'en pouvait plus. Alors, ils vomissaient. Leur bouche amère ne faisait plus la différence entre ceux qu'ils ingéraient ou ceux qu'ils rejetaient. La chienne jaune avait compris où se trouvait sa pitance, et le cerceau de ses côtes ne contenait plus un ventre aussi distendu que si elle allait mettre bas. Elle aussi finit par vomir. Des bêtes qu'on n'avait jamais vues se mirent à suivre la chienne pour finir les restes, dans une chaîne infinie où les uns se ruaient sur ceux que lâchaient les autres. Tout le monde était à la fête. page 46, des chauves-souris, des singes et des hommes.
Il y a dans votre livre, Paul Constant, des scènes terribles, des scènes d'anthologie carrément. Lorsque vous nous décrivez par exemple le festin que font les villageois avec ce gorille qu'on a ramené, que les enfants ont ramené en prétendant l'avoir abattu alors qu'il était déjà mort. Et là, vous nous montrez une population qui s'empivre, qui se gave, qui se remplit la bouche de la mort.
Oui.
Et c'est une scène à la fois gargantuesque et terrible.
Alors il y a à la fois ce désir de satiété, ce désir de ne plus...
Qu'on peut comprendre, ils mangent très peu, ces villageois.
Mais aussi c'est symbolique. C'est-à-dire, on a tous envie, à un moment, d'arriver à satiété d'amour, satiété de possession, satiété de tout ce qu'on... Et là, ils font le repas de la satiété. C'est-à-dire qu'après ça, ils n'ont plus envie de rien.
Ils seraient quand même un petit peu coupables, justement, de cette avidité, de ne pas avoir été vérifiés, parce que pour eux, c'est interdit de manger un animal mort. De même qu'ils sont presque tous coupables. Virgile, l'autre personnage, le scientifique qui ne croit pas aux vaccinations et qui va arriver dans un monde de cauchemars avec tous ses cadavres. Et même le docteur Désir, qui lui est un personnage très amusant, c'est un camelot haut en gueule. Et c'est lui qui va imaginer un truc insensé, c'est-à-dire qu'il va s'emparer de la dépouille du singe mort, qui est encore complètement contagieuse, pour s'en faire quoi ? Un catafalque, une tente, et il va y laisser sa vie. Oui. Tous coupables d'avoir trop voulu, c'est un peu ça.
Ce que j'ai voulu montrer, c'est que toute cette population, sur une rive, il y a la population des Blancs et l'autre, la population des Africains, chaque personne va inventer un moyen de contamination qui n'est pas celui du voisin. C'est-à-dire qu'on ne se contamine pas tous de la même façon.
On en rirait si ce n'était pas si tragique.
Mais moi, je le trouve assez drôle.
Vous le trouvez drôle ?
Oui, par moment. C'est-à-dire que le docteur, d'abord, qui s'appelle Docteur Désir, qui amène des bonnets péruviens pour le vendre aux accouchés le long de l'Ebola, et qui d'autre part essaie de fourguer les derniers vouvouzelas de la Coupe du Monde dont personne ne veut, qui brusquement décide qu'avec la dépouille du singe, il va revenir à des fonctions plus magiques, va enfermer des populations sous la dépouille du singe et finalement va contaminer par brasser. Et tout ce qui a été contaminé en descendant l'Ebola va se recontaminer en remontant, et en remontant jusqu'où ? Sur la ville. Et c'est là que le drame va se déclencher. C'est une ville qui a entre 12 et 15 millions d'habitants. On voit le trajet de la dépouille du gorille dans la ville. Elle s'en va à l'est, elle s'en va à l'ouest, elle s'en va au nord, etc. Et elle est brusquement perdue, c'est-à-dire que toute la ville va être contaminée.
Et puis la fin, je peux la révéler quand même, parce que le livre est plein de surprises, et bien c'est un des personnages qui embarque pour l'Europe, avec les conséquences qu'on imagine.
Un personnage qui se croit épargné.
Épargné. Paul Constant, je voudrais d'abord dire à quel point l'écriture de votre livre est admirable. On est pris, et moi j'ai eu le sentiment de lire un livre très rare et très extraordinaire. Merci beaucoup Paul Constant pour Des chauves-souris, des singes et des hommes qui viennent paraître chez Gallimard.
Merci Paula Jacques.
Cosmopolitaine. Paula Jacques.
Bonjour chère Auriane Joncourt.
Bonjour Paula.
Merci de venir nous parler de votre dernier numéro de Transfuge, c'est le numéro 98. Bon, j'espère que vous allez lire le livre de Paul Constant.
Ah mais bien sûr, et puis vous avez réussi à nous faire rire des bolas, c'est déjà pas mal.
Ah mais je vous assure, c'est à la fois tragique et tellement drôle. Alors, ce numéro de Transfuge, vous mettez en couverture vraiment un prodige du théâtre et de l'écriture, qui s'appelle Vadim Ouad. C'est encore un cosmopolite.
Ah c'est totalement un cosmopolite, avec l'histoire cosmopolite qu'il a, puisqu'il est né au Liban et puis il est venu ensuite au Canada et en France. Il vient d'être nommé à la tête de la colline. Alors ça pourrait être comme ça un événement administratif, mais c'est un petit événement parce que Mouawad est donc metteur en scène, mais il est aussi auteur, romancier, écrivain. Et ça, ce n'est pas rien. Vous savez, c'est lui qui a écrit cet incendie qui avait été porté à l'écran avec un certain succès. C'est toujours un auteur de tragédie, mais de tragédie contemporaine. Incendie, c'était la guerre du Liban. Et puis là, il réécrit, il met en scène et il réécrit les tragédies de de Sophocle.
Alors, c'est ce qu'on appelle la diversité culturelle et antique à la fois, c'est bien, hein, tout dans
mais
un seul pack.
Mais c'est formidable, oui.
Alors, Auriane, vous savez à quel point je suis attentive à la lecture de votre mensuel,
oui, c'est ça que
je retrouve plaisir. Plein de bouquins dont on nous a parlé. Là, je suis un petit peu en colère.
Ah bah, allez-y.
Alors, je vais vous le dire. Vous consacrez 4 pages à Christine Taubira, 4 pages intitulées « Christine Taubira, un culte ». Alors là, franchement. Alors, cet article de 4 pages est signé par un pisse-vinaigre que je nommerai, si je vais le nommer, allez. Il s'appelle François Bégodeau. Et qu'est-ce qu'il reproche à Christine Taubira? Il reproche à Christine Taubira de truffer ses discours de citations littéraires des auteurs les plus merveilleux, les plus anciens, les plus chics, des citations à propos. Et lui, il considère que c'est quoi? Que c'est un couvre-misère et que Christine Taubira n'a jamais rien lu de sa vie et ne sait même pas de quoi elle parle. Est-ce que c'est pas un peu exagéré?
Non, c'est pas exactement ça. Il dit attention, attention, c'est vrai qu'on admire toujours les grandes paroles des grands politiques et surtout quand il cite des poètes, quand il cite des écrivains. Et ce qu'il nous dit attention, la citation, le goût littéraire ne fait pas forcément le grand discours politique. Il ne faut pas, vous savez, en
France... préférez dans un discours politique, quand un homme politique vous explique qu'il a passé la rhubarbe et la salade, par exemple, d'un auteur célèbre.
Je crois que vous savez qu'un écrivain qui nous met en garde face à la forme, c'est surprenant, je sais, mais c'est pas inintéressant. Alors, c'est vrai que Taubira, on a tous été admiratifs et charmés par ses discours. Mais cela n'empêche que parfois un regard critique, pourquoi pas?
Mais non, justement, non, je vais vous dire pourquoi. Parce que Christine Taubira, qui selon moi était vraiment un ministre de conviction, de courage et en plus de culture, Christine Taubira est attaquée de tous les côtés pour des raisons absolument abominables.
Et assez indigne, ça je suis d'accord avec
lui
vous.
Lui reprocher de lancer un écran de fumée avec sa mauvaise culture, sa fausse culture, bah, je trouve ça pas très bien. Excusez-moi. qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Madeleine?
Oh mon Dieu. Hein? Non, mais une revue est surtout faite aussi pour permettre à des éditorialistes, des chroniqueurs d'exprimer une opinion qui
oui, mais franchement,
c'est vrai. Non, nous n'avons pas le contrôle des consciences.
Oui, mais d'accord, une opinion sur 4 pages, franchement. Hein. Bon, alors, je voudrais juste finir avec quelque chose qui me paraît le comble, en plus.
Ah oh, non, mais
voilà.
Mais
voilà ce que nous dit.
C'est notre procès.
Voilà ce que nous dit François Bégodeau. Citer n'est pas penser ni donner à penser, mais livrer une pensée toute faite et prête à l'usage. Eh bien, je préfère la pensée toute faite et prête à l'usage que pas de pensée du tout. Vous êtes d'accord?
Bah, là-dessus, évidemment, je suis d'accord avec vous.
Bon, alors, quoi d'autre? Alors là, il y a aussi, vous avez parlé de films.
Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, on a parlé, vous savez, comme la palme est remise aujourd'hui. C'est quand même Bruno Dumont qui fait notre couverture avec Maloute. Et alors là, je suis sûre qu'on va se réconcilier parce que j'ai l'impression que vous vous intéressez aux anthropophages en ce moment. Et donc, Maloute, c'est quand même ça. Dumont qui réussit à nous faire rire avec sur l'anthropophagie.
Qu'est-ce qui vous fait dire que je m'intéresse aux anthropophages?
Bah, j'ai vu. Alors, je sais que c'était un gorille qui mangeait, mais vu quand même qu'il y avait
c'est pas des anthropophages,
l'humour noir.
C'est de la dévoration.
Non, c'est de la dévoration. D'accord. Mais continuez.
Non, mais donc, en tout cas, c'est intéressant ce retour de l'humour noir.
Vous l'avez vu, Laurent, le film Maloute?
Pas encore.
Ouais. Oui. Et ce serait formidable si un film comme ça, grotesque, burlesque, de la grande comédie française, mais en même temps noir, pouvait avoir la palme. Moi, je trouve ça formidable.
Merci ma chère Auriane.
Mais merci à vous Paula.
En tout cas, précipitez-vous sur le numéro Transfuge. Vous savez, c'est un mensuel et choisissez avec eux le camp de la liberté. Fin de cette cosmopolitaine, programmation musicale choisie par Jean-Baptiste Audibert. Vous avez écouté James Black, My Willing Heart et Rokia Traoré, Oniele. Des chauves-souris, des singes et des hommes de Paul Constant est paru chez Gallimard. Et la sortie au cinéma Palace et Ciné-Jardin d'Égypte 30-83 de Marie-Claude Bénard aux éditions Parenthèse. Cette émission est disponible à la réécoute en podcast sur le site de France Inter. Et si vous allez sur le site Cosmopolitaine et sur Facebook, vous trouverez un tas d'autres choses intéressantes, je crois, nous concernant. Voilà. Merci à toute l'équipe de Cosmopolitaine, Marie-Madeleine Rigopoulos, Laurent Bourdon, Leïla Courcé-Licoy et Michel Soulier. Aujourd'hui, derrière la console, Dimitri Gronoff et Mathias Alléon. La semaine prochaine, je recevrai une auteure syrienne pour son formidable livre Les Portes du Néant. C'est Samar Yazbek et son livre est publié chez Steck. Et puis, chez Stock, pardon, c'est l'anthropophagie, chez Steck, j'ai dit. Et puis, Pietro Marcello pour son film italien Bella et Perduta. Après les infos, comme toujours, vous retrouverez Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Aujourd'hui, elle reçoit Yves Sirois, physicien. Pub.